Jean ne peut pas comprendre la fureur de maman, plus que maman lui dire comment elle voit Françoise. Mais s'il voyait Françoise avec les yeux de maman, il serait incapable de penser à la jeune femme autrement qu'avec dégoût. Seule dans la grande villa, maman dispose de toutes ses journées pour penser à Françoise, à Jean, pour les imaginer ensemble. Je l'ai reçue chez moi, je lui ai ouvert ma porte. Tout cela pourquoi ? Pour qu'elle monte mon fils contre moi. Sa mémoire, infaillible dans les détails, a retenu la voix chaude et douce, trop douce de la femme. Imaginant Françoise et Jean parlant d'elle-même, maman ne commet pas d'erreur sur l'intonation, même si elle se trompe sur les mots. « Ce n'est pas une vie pour un homme de ton âge, chéri, que de vivre seul entre une vieille femme et un enfant. » Et lui, ne répond-il pas, en défendant sa mère avec maladresse, « Elle paie beaucoup de sa personne, mon petit. Elle se donne beaucoup à Michou, à moi. » En est-il là, déjà, à la défendre ? Maman ne peut supporter l'idée qu'il parle ainsi d'elle, comme une étrangère à laquelle est due de la reconnaissance. Elle garde l'espoir que Jean n'admettra pas longtemps qu'une femme lui trace sa ligne de conduite. Mais elle connaît la naïveté de Jean, d'autant plus grande qu'il se croit invincible, trop gâté par les femmes et qu'il les sous-estime. Longs après-midi à se torturer de cette certitude qu'il se laissera prendre au piège, de sa propre impuissance à l'en arracher. Rageusement, elle détache de la chaîne d'or le petit Bouddha de jade qu'elle ne veut plus porter, qu'elle ne veut plus voir, puisqu'il vient de chez Françoise. Le souvenir du prix qu'il a coûté, au dernier instant, l'empêche de le jeter à terre et de le piétiner, ainsi qu'elle en aurait le désir. Elle ouvre son tiroir aux reliques et l'y range, parmi d'autres bibelots pareillement aimés puis haïs, mais qu'elle n'a pu se décider à détruire à cause de leur valeur. Il y a là une montre de femme en or, premier et seul cadeau d'anniversaire de son mari, une broche en vieil argent, présent d'Irène, un fume-cigarette en écaille du temps où elle fumait, des boucles d'oreilles au sujet desquelles Georges l'a plaisanté un jour, des boutons de manchette qui appartenaient à Georges, que Jean trouve ridicule, maman ne trouve pas, et parmi d'autres objets, 6 soldats de plomb, mousquetaires et gardes, prétexte à une colère de Jean 4 ans plus tôt, lorsque, ayant puni l'enfant pour on ne sait plus quel méfait, il les a découverts sur la table de la cuisine, achetés le jour même par maman. Trésor des souvenirs maudits. À l'image de ma vie, pense-t-elle. Heureuse apparemment, et qui s'est écoulée dans une relative aisance, mais au prix de quelles tortures et de quelles humiliations. « Je ne perdrai plus, » pense-t-elle encore, « je n'ai plus de temps à perdre. » Et, menaçant à voix haute Françoise, comme si l'invisible parfois entendait, « Prends garde, ma petite, prends garde, le jour où je serai sûre que tu es mon ennemi. » Ils dînaient au restaurant maintenant tous les 3 ou 4 soirs. La première offre de Jean, pourtant, de sortir ensemble, Françoise l'avait repoussée, pour se reprocher ce refus par la suite. Il y avait vu, devinait-elle, la réaction typique de la petite bourgeoise hypocrite et sotte, alors que, simplement, elle n'était pas sûre de lui. Apprenant à le connaître, elle souffrait de certaines de ses découvertes. Or, le fait de piloter un prototype, tout paraissait pour lui prendre l'allure d'un jeu. La fierté que la plupart des hommes éprouvent à se sentir responsable, l'épuisait-il donc dans ses vols ? Il lui rappelait Michel, au premier temps de leur mariage, si vain de son passé de pilote de guerre qu'il ne vivait plus que de l'avoir été. Mais Jean était une force, même s'il l'ignorait, que Michel n'était pas. Elle ne pouvait admettre qu'il devint un Michel, qu'il y eût entre eux la moindre ressemblance. Prudemment, elle l'incitait à le comprendre et se persuadait de n'avoir pas d'autre ambition. Elle lui parlait de son travail, de son magasin, sollicitait de lui des conseils qu'elle ne le croyait pas capable de donner. « Je vais refaire ma vitrine, chérie. Que penserais-tu de mon petit flamand? Tu sais, il est très beau. Et auprès, je vois une potiche de Delft, bleue et blanche, avec des tulipes jaunes. Le tableau dans un cadre noir. « Oui, disait-il, ce serait pas mal. Je t'ennuie? Je te semble égoïste? Mais non. Mais je ne peux plus rien faire sans toi. Et à qui veux-tu que je parle de ça, sinon à toi? Michel, tu penses, si Michel... Tu veux bien que je ne puisse rien faire sans toi? Ce doit être une telle joie pour un homme, savoir qu'on a besoin de lui. » Elle ressentait la gêne, presque l'éloignement de Jean, n'en devinait pas la cause. Elle essayait d'imaginer la vie qu'il devait avoir entre cette vieille femme et cet enfant, croyait y découvrir l'explication de la distance qu'il prenait toujours avec les détails quotidiens. « Si je suis égoïste, tout ce que tu portes, Michou, ta maman, il compte sur toi. Un garçon de l'âge de Michou a besoin de son père, a besoin d'être surveillé. Je suis sûre que c'est un enfant très sensible. Tu dois t'en soucier beaucoup. » « Oui, dit-il, oui. D'ordinaire, les hommes n'ont pas une telle charge. Ils ont une femme auprès d'eux. » Elle l'agace et n'ignore pas qu'elle l'agace. Tentant de pénétrer les pensées de Jean, ses préoccupations, ses espoirs, elle s'y perd, labyrinthe où, sans cesse, on revient sur ses pas. « Et moi, qui par là-dessus te prends le temps que tu dois à ta mère, à ton fils ?» Il l'interrompt. « Tu es bête. »« Non, c'est vrai, je me le dis souvent. Je voudrais tant t'apporter, je voudrais t'aider, te donner le bonheur. Et je ne sais être pour toi qu'un embarras nouveau. » Il résiste à l'envie de lui dire « Tu veux m'aider? Alors tais-toi. » On ne s'ouvre pas à 40 ans à la conscience des multiples problèmes que pose une vie d'homme. Il est comme il est, voilà tout. Il ne peut se soustraire à l'arrière-pensée que cette conscience serait un reniement de son passé, une trahison au métier qu'il exerce, qui veut des hommes libres. Il ne sait pas s'engager, si ce n'est dans l'acceptation quotidienne de la mort, parce que peut-être la mort lui fait moins peur que la vie. Tout cela qu'il ne disait pas, confusément, elle le devinait. En même temps, elle pensait à son retour proche, dans la maison de son mari, dans ce faubourg, au cottage laid, où des femmes plus laides encore vivent aux fenêtres ou dans la rue, esclaves bavardes, privées d'avenir et d'horizon. Un grand besoin d'air et de libre espace l'oppresse tout à coup. Pour détendre l'angoisse, il lui faut divaguer. « Nous avons tant de chance, nous deux. Tu sais qu'un jour, nous irons en voyage ensemble, dans un pays de soleil. Tu verras comme ce sera beau. » « Oui, disait-il, j'aimerais bien, moi aussi, laisser tomber, non pas le poisson, mais tout le reste, les consignes idiotes, les emmerdements. » Une fois encore, elle devrait noter le faux fuyant. Il n'admet l'idée du départ qu'à la condition que ce départ l'arrange, lui. L'égoïsme qu'il lui oppose, il le lui opposera toujours. L'homme d'action, le coureur de jupes, à toute la naïveté, l'ignorance d'un enfant. Elle le savait dès le début, sans doute. Mais à quoi bon cette force qu'il a, si elle ne doit jamais servir? La lucidité devient conscience de la faillite d'un amour. Il faut à Françoise la fuir. Si vive tout à coup que, si elle ne la fuyait, elle se désespérerait de tenir à cet homme. Honteuse de se l'avouer. Ce sera donc une aventure comme les autres. Elle souffre tant que, lui semble-t-il, Jean ne peut ignorer sa souffrance. Mais la fatigue, l'ennui, le refus immobilisent dans un sourire contraint les traits faits pour s'émouvoir. Il ne dit rien, et de même elle se tait. Elle s'approche de lui, le touche. Puisque d'elle, il ne peut tolérer que cela, la caresse, le poids de son corps, de son visage. Il sent sur son bras la main de Françoise, regarde la main froide, aux doigts maigres. Brusquement, il ne voit plus qu'elle. Laissait-il Irène le toucher ainsi sans qu'il l'ait demandé? Lui fallait-il atteindre le milieu de son âge pour découvrir que l'élan spontané du geste en fait le prix? Autour de l'annulaire tourne une bague lourde, un camé ancien. Assise entre deux colonnes, une jeune femme qui ressemble à Françoise, coiffée d'un chignon comme elle, caresse un signe. Elle dit « Bonjour, toi !» et il la serre contre lui. Georges Rombaud n'est pas intelligent. Sans quoi, il ne serait pas, à 6 mois de ses 15 ans, en 5e B. Pourtant, Michou savait ce qu'il faisait quand il se l'est adjoint comme second. Georges mesure 1m72 et ses pectoraux sont en proportion. Quoi qu'il arrive, et même s'il doit redoubler une fois de plus sa 5e, il est assuré d'un prix à la fin de l'année, le prix de gymnastique. Il s'est pris pour Michou d'affection depuis que Michou lui a certifié que « ce qu'on apprend en classe, c'est de la blague ». Georges en avait comme l'intuition, mais modeste et doutant de ses facultés intellectuelles, il a été content de se l'entendre confirmer par le premier de la classe en français. Ce jour-là, Georges a quitté le groupe de Bernard Boulet, qui pourtant réunit tous les durs de 5e, pour se muer en un garde de corps vigilant. Et, du même coup, Boulet et sa bande ont cessé de poursuivre l'enfant seul de leur sarcasme. Michou ne déteste pas l'admiration que lui voue Georges. Elle peut lui être utile dans une de ces situations désespérées où le bras, aveuglément, doit obéir aux suggestions du cerveau. Le seul reproche que Michou ferait à Georges, ce serait de trop aimer les filles. Cette faiblesse interdit à Michou de se confier à son ami de crainte que, dans le feu d'un épanchement sentimental, Georges n'aille tout répéter à quelque gourde qui se trouvera être au gage des envahisseurs. Qu'il suffise à Georges de savoir que l'heure est plus grave qu'on ne croit, que le péril est aux portes et qu'il convient de veiller sans cesse, car, jusqu'à nouvel ordre, les consignes de Michou ne sont pas plus compliquées. Tenir grands ouverts les oreilles et les yeux, lui rapporter le plus possible de renseignements sur les agissements de l'ennemi.
« Mais quel ennemi? Où est-il?
Chut, tais-toi et regarde. » C'est un jeudi, au retour du catéchisme. Maman a envoyé Michou chercher du pain. Michou a voulu prendre Georges en passant, on ne sait jamais. N'a-t-il pas établi son quartier général là-bas, précisément, un QG, où toujours il entre seul, afin de ne pas donner l'éveil? Aussi longtemps que les autres l'ignoreront, le lieu d'asile et la retraite sauvegardée. Regarde bien, je vais entrer là-dedans. J'espère qu'ils m'en laisseront sortir.
Mais c'est une boulangerie, dit Georges, une vague moue d'ironie aux lèvres.
Qu'il perd bien vite sous le regard sévère de Michou. « Une boulangerie, oui. C'est ce qu'on veut que je croie. Tu vas regarder avec attention ceux qui entreront derrière moi, et surtout ceux qui feront mine de ne pas me connaître. Tu tâcheras d'entendre ce qu'ils disent.
s'il prononce le mot « chauve-souris », c'en est.
« Ah !» fait Georges tout de même impressionné, mais encore rassurant, énorme, les manches de sa chemise relevées au coude.
« Pourquoi, chauve-souris ?»«
Ne prononce jamais ce mot-là, tu restes là et tu te tais. Aussi longtemps qu'on me garde là-dedans, tu ne bouges pas. Promis ?»«
Promis, » dit Georges convaincu. D'une démarche dégagée, Michou traverse la rue. Aucune hésitation ne le fera suspecter de n'être pas un petit commissionnaire comme les autres.
« Bonjour, mesdames, » dit-il en pénétrant dans la boutique.
Et il se reprend. « Mesdames et messieurs, » parce qu'il n'y a pas que des femmes. Pourquoi faut-il que l'homme soit son professeur d'histoire? Heureusement, il est servi, il donne les sous.
« Bonjour, mon petit, » dit la boulangère. « Un pain de deux livres, comme d'habitude ?»
À l'intention des deux femmes, debout, devant le comptoir, elle ajoute « Vous permettez ?»«
Mais madame, » dit Michou, « j'ai tout le temps d'attendre. »
La plus petite des femmes rit. Le professeur d'histoire soulève son chapeau et s'en va, deux gros pains sous le bras. Il ne les mangera tout de même pas, lui tout seul. La plus grande des femmes fait un pas.
« Bonjour Michou !» en lui tendant la main.
De stupéfaction, pendant 3 secondes, il reste muet. Pas plus de 3 secondes. Quelle maîtrise de soi!
« Bonjour, madame, » dit-il.
« Tu ne me reconnais pas ?»«
Non, madame, » dit-il.
Et en même temps, il la reconnaît.
« C'est la dame !»
Plus tard, il ne saura pas comment il n'a pas fui. Le fait est là. Non seulement il ne fuit pas, mais il parvient à sourire.
« Si, madame, excusez-moi, je ne vous ai pas remise tout de suite. »
« C'est donc toi qui fais les commissions pour ta grand-mère, c'est bien cela !»«
Pourquoi me parle-t-elle de ma grand-mère? Comment sait-elle? Mais naturellement,
elle sait tout !» Il ne sait, quant à lui, ce qui l'épouvante le plus, de la science de la dame ou de sa beauté.
« Il faudra que tu reviennes me voir, Michou, à mon magasin, tu sais où c'est. Tu demanderas à ton papa. Je te donnerai des gravures sur le Moyen-Âge. C'est bien le Moyen-Âge que tu étudies cette année. »
« Oui, madame, » dit-il, mais il n'en est plus sûr, il n'est plus sûr de rien. Rien de tout cela ne devrait le surprendre, puisqu'il s'y attendait. Mais il ne l'attendait pas si vite. Il prévoyait une lente offensive, à laquelle il aurait le temps de répondre coup pour coup, non pas cette attaque brusquée, violente, où tout à la fois est mis en question. Maman, papa, lycée, espiège aussitôt tendu, il faut venir me voir. Même la pensée de Georges, dehors, devant la boutique, ne le rassure pas. Une hésitation et il est perdu. Déjà, il s'est tu trop longtemps. Et déjà, le regard de la dame se fige. Elle s'inquiète de son silence. Elle le soupçonne d'en savoir trop. Tout à l'heure, elle va loucher. Et alors, il sera trop tard.
« Au revoir, madame, » dit-il. Et il recule vers le comptoir, y prend son pain. « Maman vous paiera, » dit-il.
Et il recule vers la porte. Il n'a même pas tendu la main. Il est dehors, le cœur battant, et quelque chose qui ressemble à des larmes dans les yeux. C'est l'instant que Georges choisit pour rendre compte.
Personne n'a parlé de chauve-souris.
Quoi ? Dit Michou, et son cœur cesse de battre. Mais tais-toi donc, idiot, elle était là.
Qui ça ?
La reine.